Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Jupiter se livre, première offensive médiatique d'Emmanuel Macron dans une longue interview au Point.
Le jour même où son gouvernement dévoile les détails de la réforme du Code du travail, le président défend sa méthode et règle ses comptes avec François Hollande. Sur les impôts, il assume d'augmenter la charge sur les retraités les plus riches. Les jeunes sont les plus pauvres, dit-il en substance. Vrai ou faux? Ce sera la question du 8h. Dans l'actualité également, les consultations médicales qui explose en cette rentrée. C'est le résultat d'une enquête que vous dévoile RTL. Et puis les Bleus qui espèrent retrouver ce soir le chemin de la victoire face aux Pays-Bas. Vicente Lizarazu est inquiet. Griezmann n'est plus au niveau, dit-il.
À 8h20, vos questions au ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer en cette rentrée. Vous pouvez tout de suite appeler le 3210 et le 64 900 code matin.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Si vous êtes allé récemment chez le médecin, vous l'avez peut-être remarqué, il y a du monde dans la salle d'attente. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la période la plus chargée, puisque plus que pendant l'hiver et ces épidémies de grippe, rentrée rime avec santé. On revient avec ces petits bobos de vacances. C'est aussi le moment de faire le point. Le site de rendez-vous en ligne Doctolib est pris d'assaut. 26% de trafic en plus par rapport au reste de l'année, d'après les chiffres dévoilés par RTL. Reportage chez un généraliste parisien, Élodie Guillard.
Arrivée 8h30, départ 21h, l'agenda du docteur Mazrouk lui laisse peu de répit.
Tout est rempli, ça se remplit au jour le jour.
Jusqu'à 30 patients par jour, ce jeune médecin ne l'avait pas vraiment anticipé.
Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le 22, 23, 24, 25 août ce soit aussi rempli. Franchement, je ne pensais pas. Bah là, ça reprend voilà, tout le temps. Donc tous les quarts d'heure, il y a des nouveaux appels. C'est non-stop.
Dans son cabinet, il y a ceux qui ont un peu négligé leur santé pendant l'été.
Il y a beaucoup de patients qui ont eu des pathologies ou qui ont contracté des choses en vacances, qui ne sont pas forcément allés se faire soigner parce qu'ils ne pouvaient pas ou parce qu'ils étaient trop éloignés d'un centre de santé ou peut-être parce qu'ils n'avaient pas confiance à un médecin dans un pays étranger. Donc faut qu'on essaye de rattraper les choses, quoi.
Mais aussi, et c'est le cas de la jeune maman Sophie, ceux qui profitent de cette période pour faire un bilan complet.
Tous les ans, je fais gynéco, dentiste et dermato. C'est plus un rappel de se dire je le fais à date fixe pour rien oublier et du coup bah, la rentrée c'est toujours là où on fait le bilan de l'année, on met les choses à plat et on regarde où est-ce qu'on en est.
Et ce n'est pas la rentrée scolaire la semaine prochaine qui fera ralentir l'activité du cabinet.
Un reportage signé Élodie Guillard.
RTL Matin 8h03.
Certains lui reprochaient son silence. Emmanuel Macron se rattrape ce matin dans une longue interview à l'hebdomadaire Le Point.
16 pages d'entretien, ce qu'il faut retenir avec vous, Olivier Bost.
Eh bien d'abord que vous n'y trouverez ni regret ni modestie. Nous avons tourné la page de 3 décennies d'inefficacité, juge Emmanuel Macron. Et il assume tout de ses premiers mois, la baisse des APL, la réduction des emplois aidés ou ce qu'il appelle une tempête dans un verre d'eau avec le général De Villiers. C'est lui le chef, il le redit. Deuxième chose à retenir, la riposte d'Emmanuel Macron contre ses détracteurs. Il ne veut plus entendre François Hollande, celui qui n'a pas pu, dit-il, défendre son bilan devant les Français. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'apporte aucune solution pour les vrais sacrifiés du système. Les sacrifiés, selon Emmanuel Macron, ce sont les jeunes, les peu qualifiés, moins souvent les retraités. Enfin, dernier point, Emmanuel Macron demande déjà du temps, qu'on ne le juge pas sur les 100 premiers jours. Au-delà des crispations, il demande qu'on regarde plus tard les effets de sa politique globalement pour pouvoir juger sa transformation. C'est le mot de cette rentrée, sa transformation de la France.
Merci Olivier. À retenir également cette phrase, lorsqu'Emmanuel Macron évoque la hausse de la CSG qui pèsera sur les retraités les plus riches, les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes.
Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est la question de 8 heures.
Avec vous, Martial Youb, bonjour.
Bonjour.
Alors, les jeunes sont plus pauvres que les retraités?
C'est vrai. Mais alors, attention, ça ne veut pas dire que les retraités sont des nantis, hein, loin de là. Mais quand on parle de niveau de vie, comme Emmanuel Macron, il faut regarder l'ensemble du patrimoine, pas seulement la pension de retraite ou le salaire. Et là, la situation tourne à l'avantage des plus de 60 ans. D'abord, les retraités sont propriétaires de leur logement. C'est un poste de dépense très lourd pour les 18-25 ans. En France, 70% du patrimoine immobilier est dans les mains des retraités. Ensuite, il y a l'épargne. Les jeunes jusqu'à 30 ans ont un taux d'épargne négatif parce qu'ils achètent leur maison, s'installent, mettent peu de côté. Le taux d'épargne des retraités dépasse, lui, les 20%. C'est plus que la moyenne nationale. Et même les retraités ouvriers, les plus pauvres, parviennent à mettre 15,5% de leurs revenus de côté. Enfin, si on regarde les minima sociaux, minimum vieillesse, 803 euros pour une personne seule. RSA, 545 euros pour le RSA. Deux indicateurs encore. Au Resto du Cœur, en 2010-2011, on comptait 8% de 18-25 ans contre 4% de retraités de plus de 66 ans. Le nombre des étudiants avait même été multiplié par 3 en 2 ans. Et puis enfin, c'est plus anecdotique, mais c'est révélé révélateur du pouvoir d'achat. En France, on achète sa première voiture neuve à plus de 55 ans. Mais attention, encore une fois, j'insiste, on ne parle pas de retraités riches, d'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux, 80% selon l'observatoire CTLM, à utiliser leur argent pour aider leurs enfants.
La question du 8h était signée ce matin, Martial Youf.
RTL Matin, 8h05.
Toujours au point, Emmanuel Macron promet avec sa réforme du Code du Travail de libérer les énergies.
Alors, on en connaît les grandes lignes, comme le plafonnement des indemnités aux prud'hommes. Le chef de l'État rappelle cette concession également ce matin. Les accords de branche professionnelle seront renforcés. C'est un argument exprimé par les syndicats. Je le trouve tout à fait fondé, dit le président. Les détails, on les aura à midi. Bonjour Christophe Ponzion.
Bonjour.
Alors, si le gouvernement passe par des ordonnances, c'est pour aller vite. Alors, quand est-ce qu'on sera concerné, nous, concrètement ?
Eh bien, techniquement, dans moins d'un mois, promulgation du texte et publication au journal officiel autour du lundi 25 septembre. Voilà le pronostic de Matignon. Et donc, le plafonnement des dommages et intérêts prud'homaux, la réduction des délais de recours ou la hausse des indemnités légales de licenciement, tout cela devrait entrer en vigueur immédiatement. Pourtant, à la rue de Grenelle, on se veut plus prudent. Des décrets d'application vont parfois être nécessaires. Et en réalité, la grande majorité des mesures sera applicable au 1er janvier prochain, m'explique un proche de la ministre du Travail. Il faut que le texte vive, renchérit l'Élysée. Précisément, le président Emmanuel Macron rappelle qu'un texte prend entre 18 et 24 mois pour infuser, dit-il. On ne change pas une société par une loi ou un décret. Libre donc aux branches professionnelles de s'approprier la réforme. Par exemple, si elles veulent régler elles-mêmes le recours au contrat court, au CDD, pareil pour les entreprises. Sans accord majoritaire, pas d'application, la réforme n'aurait alors que très peu d'effet.
Merci Christophe Ponzio.
RTL, 8h07, la suite du journal Jérôme Florin.
Il a presque fait figure de suspect pendant quelques heures dans l'affaire Maëlys. Le gardien de la salle des fêtes clame son innocence sur RTL.
Sa maison de Pont de Beauvoisin en Isère et sa voiture avaient été perquisitionnées par les gendarmes. Je dormais, dit-il au moment de la disparition. Lorsque j'ai appris ça, j'étais sous le choc moi-même. Voilà ce que dit sur RTL cet homme de 50 ans. Les recherches se poursuivent. Le portrait de la petite fille a été distribué à toutes les polices européennes. Et puis on apprend à l'instant que concernant l'attaque des militaires à Levallois cet été, le suspect a été mis en examen par un juge antiterroriste. On y reviendra évidemment dès qu'on aura un peu plus d'informations. À l'étranger, après Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'est Lech Walesa lui-même qui s'en prend au pouvoir polonais de plus en plus autoritaire. Le gouvernement nationaliste multiplie les réformes qui pourraient remettre en cause l'indépendance de la justice. Bruxelles s'en est ému. Écoutez l'ancien président et prix Nobel de la paix.
Comme le disent la France et l'Allemagne, si nous voulons appartenir à l'Union européenne, il faut se comporter comme tel. De plus en plus, nous expulsons l'Union européenne de la Pologne. Ce n'est pas l'Union européenne qui nous expulse, c'est nous qui l'expulsons.
Lech Walesa qui sort de son silence à la télévision polonaise.
Après le journal, je vous le rappelle, Michel Simès nous expliquera pourquoi on maigrit en dormant. Mais avant cela, l'opération reconquête des Bleus. C'est du football, on en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL 8h10, Jérôme Florin, Yves Calvi.
France-Pays-Bas, coup d'envoi à 20h45 ce soir au Stade de France. Grosse pression sur les hommes de Didier Deschamps.
On les avait laissés sur une défaite contre la Suède avant les vacances. Un coup dur sur le parcours en vue de la qualification pour le Mondial de l'an prochain. Le sélectionneur va devoir se montrer astucieux pour notre consultant Vicente Lizarazu.
Ce soir au Stade de France, on ne peut pas être dans la gestion parce qu'il y a eu la défaite contre la Suède qui nous oblige de faire un résultat positif contre les Pays-Bas. Donc dans une période qui est un petit peu compliquée, qui est la reprise de la saison, où les temps de jeu sont disparates d'un joueur à l'autre, Didier Deschamps va devoir déjà composer son équipe en fonction de la forme du moment, de mon point de vue, des meilleurs équilibres. Et puis il y a deux joueurs qui sont très importants dans cette équipe, c'est Antoine Griezmann et Paul Pogba. Je suis un petit peu inquiet pour Antoine Griezmann parce qu'il n'est plus au niveau de l'Euro 2016 où il avait été élu meilleur joueur de la compétition. Il a eu une saison, je ne vais pas dire qu'elle était moyenne, mais en tout cas elle n'était pas dans les mêmes standards. Voilà, il a un peu du mal à digérer tout ce qui s'est passé autour de lui, la notoriété, l'hypermédiatisation. Et donc Didier Deschamps, qui lui a fait l'équipe autour d'Antoine Griezmann, ne peut pas se permettre d'avoir un Antoine Griezmann qui est à 70% de ses moyens. Et à côté, il y a Paul Pogba qui, me semble-t-il, lui, plutôt est dans une phase ascendante. Il a digéré sa première saison à Manchester United. Et donc, du coup, peut-être que Didier Deschamps devra arbitrer un petit peu, trouver un juste équilibre entre mettre en valeur Paul Pogba et puis mettre Antoine Griezmann dans les meilleures conditions pour retrouver l'Antoine Griezmann de l'Euro 2016.
Vicente Lizarazu avec Philippe Sanfourche, France-Pays-Bas, match à suivre ce soir de 20h à minuit en intégralité dans le Club Lisa spécial France-Pays-Bas.
RTL 8h11.
Il y a 20 ans, jour pour jour, vous appreniez peut-être en écoutant RTL la mort de la princesse Diana à Paris.
Un destin brisé sous le pont de l'Alma à Paris, où se pressent toujours aujourd'hui les admirateurs. À Londres, devant le palais de Kensington, on dépose encore des montagnes de fleurs en mémoire de la jeune femme disparue à l'âge de 36 ans, cette fameuse nuit du 31 août 97. Jean-Alphonse Richard.
Oui, c'est la nuit où effectivement le monde entier a eu les yeux tournés vers Paris. Minuit 23, l'accident. En quelques minutes, la nouvelle fait le tour de la planète.
Princess Diana is seriously injured.
Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash.
On apprend à l'instant que Lady Diana vient d'être grièvement blessée dans un accident de voiture survenu.
Diana, coincée à l'arrière de la voiture, semi-inconsciente mais vivante. Aux pompiers qui la prennent en charge, elle prononce même quelques mots en anglais. Son pouls est faible dans l'ambulance. Son cœur s'arrête une première fois, puis repart. À 5h45, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, confirme le décès.
Lady Diana était une personne très aimée en France. Une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays.
Dans la nuit parisienne, la princesse, victime d'une hémorragie interne, aura survécu un peu moins de 4 heures ce 31 août 1997.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts.
Récit de cette nuit du 31 août 1997, signé Jean-Alphonse Richard.
C'était le journal de Jérôme Florin.